Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. La 76e édition du Festival de Cannes démarre ce mardi soir. On s'est entretenu avec le seul Belge retenu dans la sélection officielle. Mais d'abord, en cyclisme, Remco Evenepoel, pourtant leader, a dû abandonner la route du Tour d'Italie. Nous sommes le mardi 16 mai, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Un coup de massue tombé dimanche soir, Remco Evenepoel a annoncé son retrait du Tour d'Italie après un contrôle positif au Covid-19. Le Belge était en tête, venait de remporter sa deuxième étape de l'épreuve, mais diminué par la maladie, le champion et son équipe n'ont pas pris de risque. Pourquoi les cyclistes sont-ils si exposés face au Covid? Comment va se dérouler la suite de la saison de Remco et la suite de ce Tour d'Italie? Notre expert cyclisme Stéphane Thirion a répondu aux questions de Grégory Baillet. La vidéo est disponible sur le site de Sud Info. En voici un condensé.
C'est une catastrophe surtout pour lui, on est bien d'accord. C'est une perte colossale pour le Giro, car évidemment, il va falloir se réveiller mardi pour reprendre le parcours sans ce coureur qui attire, qui attaque, qui prend la lumière avec tous ses maillots distinctifs et qui avait jusqu'ici réalisé une course en faute. Donc c'est sûr, c'est un manque pour tout le monde. Les organisateurs avaient mis le paquet pour attirer, pas le paquet financier, hein, soyons clairs, le paquet sportif, pour attirer Remco Evenepoel à leur course. Dès lors qu'ils avaient programmé trois contre-la-montre, dont les deux premiers ont été remportés par notre champion du monde. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect populaire. Il a réussi en quelques jours à se mettre le public italien avec lui. Vous savez, le charisme de Remco Evenepoel à 23 ans est assez différent de la froideur d'un Primo Roglic, par exemple, ou du style très british du duo de Ineos, Thomas et Tao. Donc voilà, c'est un manque pour tout le monde.
Avant Evenepoel, c'est notamment l'Italien Filippo Ganna qui a dû jeter l'éponge après un contrôle positif. Plusieurs équipiers de Roglic ont été touchés avant le début de la course. De quoi se demander si le monde du vélo fait plus attention que d'autres sports par rapport au Covid.
Alors il y a un fonctionnement interne aux équipes qui veut que les tests Covid soient appliqués sinon tous les jours, au moins une fois tous les deux jours. Parce que tous les médecins sont d'accord là-dessus. Le sport d'endurance qu'est le cyclisme, comme l'est aussi l'athlétisme, lorsqu'on a le Covid, on ne s'en rend d'ailleurs parfois pas compte, mais les médecins s'accordent là-dessus sur le fait que c'est extrêmement dangereux, par exemple pour le cœur. Et donc, ils considèrent que ce sport réclamant déjà une somme d'efforts colossale à l'athlète, il serait suicidaire d'envoyer au charbon quelqu'un qui a le Covid et donc qui présente des symptômes qui pourraient affecter à la fois son cœur et ses poumons. C'est pour ça qu'ils ne prennent aucun risque. Ça peut arriver aussi qu'une équipe décide malgré tout de maintenir son coureur en course. C'est arrivé l'année dernière au Tour d'Espagne où le jeune Ayuso de l'équipe UAE avait été contrôlé positif, mais son équipe l'avait maintenu dans la course. Donc il n'y a pas d'obligation des équipes de l'exclure de la course, soyons bien d'accord. Ces tests-là ne sont pas non plus organisés comme avant par l'organisation, comme ça fut le cas pendant Tour de France 2020 et 2021. Ça dépend uniquement des équipes, et ici c'est donc uniquement pour sa santé que l'équipe Soudal Quick-Step a retiré Remco Evenepoel et toutes les conséquences que ça représente pour cette formation qui avait misé beaucoup sur ce Tour d'Italie, bien entendu.
Ce Tour d'Italie, c'était un des objectifs principaux de la saison d'Evenepoel. Avec cet abandon, la suite de son année pourrait être chamboulée. Certains évoquent même une participation dès cette année au Tour de France.
Personnellement, je pense que ce n'est pas le moment. Il y a plus de points négatifs que de points positifs à ce qu'il vienne au Tour. Le principal point négatif, c'est que ses équipiers, qui sont ici au Giro, je pense aux Belges, Louis Verwacht, Ilan Van Wilder, Peter Seri, ont été des coureurs très comme lui, en stage, à venir au Giro. Donc ces coureurs-là ne pourront pas venir au Tour. Parce que, encore une fois, j'en reviens aux performances athlétiques des athlètes, ils ne peuvent pas tout faire non plus, ce ne sont pas des surhommes. Donc ça veut dire que s'il fait le Tour, c'est un peu en improvisation, avec une équipe qui n'est pas la sienne, avec un coéquipier français, Julien Alaphilippe, qui lui, au contraire, travaille sur ce Tour de France depuis plusieurs semaines. Donc ces éléments-là ne sont pas en sa faveur. Et venir au Tour, avec toute la pression médiatique que ça suppose, pour y faire quelque chose d'anonyme, gagner une étape peut-être, un tour dont il ne connaît même pas le parcours, où il y a un seul chrono, enfin il n'y a rien de favorable à ce qu'il aille maintenant au tour, parce que, je vous dis, sur le plan collectif, ça n'est pas l'équipe idéale pour affronter Pogacar, Vingegaard et sa bande de Jumbo. Je pense que Remco aurait, ça l'amoindrirait d'aller faire le tour pour prendre des claques. Il n'a pas besoin de ça, il vient déjà d'en prendre une ici. Ça, ce n'est que mon avis. Maintenant, on attend que ça réagisse du côté de Soudal Quickstep. Je suppose qu'ils ne vont pas en un jour trouver un programme adéquat. Ils vont d'abord attendre que leur coureur rentre en Belgique, le laisser se reposer, en discuter avec lui, son entraîneur, qui a beaucoup d'influence sur son programme. Donc, je parle ici de Koen Pelgrim, qui c'est lui qui décide, en fait, qui conseille très fort Remco Evenepoel dans ce qu'il doit faire. Mais le Tour de France m'apparaît un peu prématuré pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.
En une semaine de course, Evenepoel aura donc pris deux contre la montre et porté le maillot rose, un peu peu pour tirer de grands enseignements.
Moi, je préfère retenir le positif. Il est venu sur ce Giro, il a gagné deux étapes, hein, donc il sera peut-être le seul à pouvoir s'en enorgueillir dans 10 jours. Il avait fait tout bien, il était en rose, il avait de fortes chances de l'emporter, hein, parce que bon, il a fait effectivement ce deuxième contre-la-montre avec le Covid, ça explique pourquoi les écarts sont aussi réduits, mais pas que. On aurait pu voir ce qu'il avait dans le ventre dans ces fameuses Dolomites, donc c'est comme ça. Par contre, je pense que là, on a clairement compris que Remco Evenepoel était un coureur du soleil. Il a gagné une Vuelta où il faisait en 35 et 40 degrés tous les jours. Et quand il pleut, qu'il fait froid, il est moins à l'aise. Hein, ça, c'est très très clair. Et donc, on peut réfléchir par rapport à cela, à son avenir dans le Giro en 2024. Parce qu'ici, au Giro, il rêve évidemment déjà de le voir revenir. Mais je pense qu'en 2024, là, on parlera beaucoup plus spécifiquement, pardon, du Tour de France.
Sans champion du monde, les chances belges de briller se réduisent presque à néant. Alors que peut-on encore espérer des autres Belges engagés? Et pour le général, le retrait d'Evenepoel, il va profiter à qui?
Côté belge, on va voir ce que les équipiers justement de Remco vont pouvoir faire. Ilan Van Wilder qui a travaillé à 100% pour Remco jusque maintenant, lui, il est capable d'intégrer une échappée dans la montagne. Et pourquoi pas d'aller gagner une étape, hein, ça peut le faire. Pour le reste, à l'échelon du général, moi, quelqu'un qui m'a vraiment bien plu, qui me plaît bien depuis le début de la course, c'est Geraint Thomas. Il a l'expérience, il est très fort en troisième semaine dans toutes les courses auxquelles il a participé. Il doit simplement partager le leadership chez Ineos, pour l'instant en tout cas, avec son jeune cadet Tao. Je dis Théo parce que je suis incapable de prononcer son nom de famille et je ne suis pas le seul. Et il reste l'énigmatique Roglic, dont on ne connaît jamais le fond de la pensée, qui sort d'une préparation idéale. Hein. Il a gagné Tirreno, il a gagné le Tour de Catalogne. Il est parti en stage pendant 6 semaines au même endroit que Remco Evenepoel, donc il est prêt. Il a fait un excellent chrono hier par rapport au fait qu'il était tout plat. Il avait repris du temps dans l'étape de samedi, donc... C'est un garçon imprévisible, mais par rapport à Geraint Thomas, il a une équipe beaucoup moins costaud. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence au bout.
L'édition 2023 du Festival de Cannes, la 76e de l'histoire, débute ce mardi 16 mai. Dans la sélection officielle, on retrouve un réalisateur belge, c'est Balogi, dont le long-métrage Augure a été retenu dans la sélection Un certain regard. Balogi, c'est un artiste multifacette qui a commencé dans la musique, mais qui aujourd'hui touche un peu à tout. On a pu s'entretenir avec lui sur les difficultés de faire un film quand on ne vient pas du milieu, sur l'honneur que représente une sélection comme celle du Festival de Cannes.
Bonjour Balogi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On va pas refaire tout un portrait de votre vie, tout le fil de votre vie. Par contre, pour les auditeurs, les lecteurs du soir qui vous connaissent peut-être pas, vous êtes né en République démocratique du Congo, oui, au moment où c'était encore le Zaïre. Vous avez grandi à Liège, vous avez vécu en Flandre.
Je vis toujours en Flandre.
Vous vivez toujours en Flandre, vous avez fait de la musique, maintenant du cinéma, un court-métrage. Comment on vous définit à part polyvalent?
Comment on me définit à part polyvalent? Je crois qu'il y a un mot qu'ils utilisent, c'est polymathe, donc c'est qui exerce sa créativité dans plusieurs domaines. Mais en fait, je crois qu'on est dans les industries créatrices où les gens ont l'habitude à ce que tout soit segmenté. Donc si t'es chanteur, t'es chanteur.
Et tu peux faire que de la chanson.
Tu ne fais que de la chanson. Et si t'es réalisateur, tu ne peux pas être autre chose. Si tu fais des costumes, tu ne peux pas faire autre chose. Si tu fais de la déco, tu ne peux pas faire autre chose. la direction artistique pour... c'est pas possible, tu ne fais que ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est le format, c'est l'idée qui décide de la forme que ça va prendre. La forme est secondaire par rapport à l'idée, en fait. C'est l'idée qui prévaut. Donc, j'ai commencé par avoir envie de raconter des histoires dans un format de 3 minutes 30, c'est-à-dire le temps d'une chanson.
Chaque fois que les portes du hall omnisport était close, on traînait dans le parking où les mecs ont buté Coles, le dos au mur, à faire le pied de grue. Mais j'ai tremblé le soir de ma première garde à vue.
Puis après, c'est passé à 15 minutes, puis après à 1h, 1h30, et ainsi de suite. Donc ça se fait naturellement, ou des fois ça dure une minute quand je fais une pub pour des marques, des fois 30 secondes. Donc c'est l'histoire qui doit tenir sur le format, et c'est ça qui doit en fait dicter l'intention, et après la forme que ça prend, de se dire que c'est une collection de lunettes ou collection de vêtements, c'est secondaire en fait.
Ici, on se retrouve notamment autour d'un film qui est nommé dans la catégorie Un certain regard pour le Festival de Cannes.
Ouais.
C'était un aboutissement ou c'était juste une logique dans cette optique de bah, c'est la forme qui décide. À un moment, c'était logique d'arriver à un film, d'arriver à un long métrage.
Non, mais en fait, je travaille sur le format long depuis très longtemps en fait. Donc j'ai commencé avec une maison de production liégeoise qui s'appelle Versus, déjà depuis 2014. Et sauf qu'en fait, pareil, quand t'arrives en commission de cinéma, ben les gens te disent bah t'as rien à faire ici, t'es musicien, toi c'est pire que ça, c'est même plus condescendant, toi t'es un rappeur.
Voir de la sueur, tu sais, soupçon de moiteur, tu sais, voir une lueur, tout ça, prendre la noirceur, tout ça, l'économie est low bat.
Donc c'est même pas
un musicien. Ça dit vraiment.
Ouais, à chaque fois. Et d'ailleurs j'ai une attitude assez. De rejet par rapport à une certaine idée de la presse, même pour le quotidien avec lequel tu travailles, ou directement les mots, c'est le rappeur qui présente son film. Et je trouve ça mais d'une bêtise affligeante en fait.
Qu'on colle forcément cette étiquette.
Ouais, parce qu'en fait ils font pas un minimum de recherche, et que si ça te prend 3 minutes, ce qui est en même temps l'essence même du métier, c'est juste 3 minutes de recherche et de se rendre compte bah, que j'ai pas fait que ça en fait. J'ai fait plein de choses, donc c'est juste 2 minutes de boulot plutôt que d'utiliser un terme qui, dans ce contexte-là, a un côté dénigrant. Et en même temps, toute une industrie qui se demande mais comment ça se fait que lui, rappeur, soit dans une des sélections les plus prestigieuses au monde, où tu es sélectionné entre 4000 œuvres.
Ça fait presque un truc de revanche, ou c'est juste ça vous passe au-dessus en disant bah ils avaient qu'à pas penser comme ça, c'était juste bête de leur part et moi je suis fait ce que j'ai envie de faire.
Ouais, je crois qu'on fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire parce qu'on peut pas, je pense, faire les choses dans un esprit revanchard ne t'aide pas créativement. Donc je pense pas que c'est l'initiative, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que je suis le seul cinéaste et le seul film belge en compétition officielle. Et que, en fait, très peu de gens en parlent dans notre pays, en fait.
Alors que si ça avait été n'importe qui avait déjà fait, ne serait-ce qu'un court-métrage, qui n'aurait pas fait de musique...
Ouais, voilà, ça aurait été évident. Et donc, il y a un côté, genre, c'est pas normal, comment ça se fait que lui, il soit arrivé là. Voilà, donc, c'est très curieux.
C'est une méga fierté d'être nommé à Cannes, j'imagine. C'est une question hyper
je te le confirme, ouais, c'est une méga fierté parce que c'est mon premier long métrage, parce que faire un long métrage, c'est même quand tu viens du court, passer du court au long, ça s'apparente à faire du 200 mètres et passer à un marathon. C'est pas exactement le même sport en fait. C'est vraiment sur le long cours, c'est 3 voire 4 ans de ta vie, donc c'est un exercice hyper intense, voilà, qui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'amour pour ce que tu fais, parce que sinon tu peux vite le perdre, quoi.
Ou on peut se nourrir de tout ce que t'as déjà pu faire ailleurs, dans d'autres activités, mais ouais. J'imagine c'est quand même, ça reste un truc. Il n'y a rien de comparable quand même avec faire un film, réaliser un film.
Il n'y a rien de comparable, mais il y a plein de points de jonction qui existent. En fait, voilà, moi je viens au départ du rap avec un groupe de Liège qui s'appelle Starflame. Où on était dans un truc hyper collaboratif, on est 7, donc même si t'en as 2 à l'avant-scène, il y a quand même tout un groupe, tout un esprit de collectivité en fait. Puis je viens d'une famille nombreuse, donc il y a ce truc-là. Puis après j'ai développé dans d'autres disciplines, et le cinéma est très
pyramidal de cette manière-là. Enfin, c'est très structuré, quoi. C'est presque moyenâgeux, quoi. C'est le réalisateur demi-dieu, le producteur au-dessus.
Et on se retrouve là-dedans quand on vient d'un milieu aussi collectif.
Bah, en fait, c'est ce qui crée la beauté du cinéma, c'est l'accumulation de talents, en fait, et de toi en tant que réalisateur d'être de diriger en fait le mouvement. Vraiment, j'ai pas envie de dire chef d'orchestre, ce serait une erreur. C'est vraiment de diriger de le film, je crois que c'est une matière vivante, donc c'est un liquide, et tu le guides un peu, tu bloques qu'il aille pas trop à gauche, pas trop à droite, et tu essaies de le garder vivant.
À travers ce film, Augure, je vais être très honnête, je l'ai pas vu, donc on va pas en faire une critique, mais c'est quoi le message, c'est quoi que t'as voulu faire passer, faire porter essentiellement? Tu parles de matière vivante, c'est quoi l'essence de la matière vivante?
Ah, l'essence d'Augure, je crois que c'est Augure avant tout un film qui parle de l'assignation. L'assignation sociale de gens qui sont considérés comme sorciers, sorcières. Et c'est dans une espèce d'Afrique fantasmagorique et qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à s'entraider les uns les autres, voilà. À s'aider dans leur difficulté d'être considérés comme des parias.
J'ai lu que ton prénom, ça veut dire homme de science, ça veut aussi dire sorcier. Ouais. Il y a un lien, la sorcellerie, c'est un...
C'est un thème qui m'est cher parce qu'en fait... Enfin, c'est un thème qui m'est cher. C'est plutôt, en fait, l'assignation. C'est-à-dire que...
Le fait, de nouveau, on est dans cette histoire d'étiquette. On a mis quelqu'un dans une case.
Voilà. Après, c'est une assignation que... Enfin, tu vois, j'aime bien cette chanson, My Name is Sue.
Before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
Donc, il raconte de ce mec qui a un nom de femme et comment il se forge une personnalité sur cette base-là. Eh ben, je trouve que c'est intéressant de développer ce genre de problématique, comme ça pourrait être un des personnages dans la narration a une tache de vin sur la joue, qui est perçu d'une certaine manière, comme il y a des tas d'assignations physiques qui conduisent à ce qu'on puisse considérer les gens d'une manière ou d'une autre en fonction de leur apparence. Donc ça ramène plutôt à ça, en fait.
Le jour d'après, 1er juillet,
dans ta discographie, le rapport à l'Afrique, le rapport au Congo, il est hyper présent. Ouais. On est toujours dans cette optique où c'était logique, Augure, de le tourner entre le Congo et la Belgique.
Il se tourne quasi exclusivement au Congo, mais mon travail est vraiment concentré sur ce rapport nord-sud, et créer des parallèles entre les deux mondes. Et en même temps, il y a un monde anglo-saxon qui est aussi hyper présent. Il y a plutôt une forme triangulaire de créer des correspondances. Je pense au surréalisme qui pourrait définir l'art belge et qui en même temps définit la culture congolaise et qui est hyper présente dans mon travail visuel depuis quelques années. Voilà, parce que Augure est vraiment un film qui tourne autour de l'idée du réalisme magique.
C'est quoi la prochaine étape dans cette idée de continuer à laisser la matière guider la forme de la création? On peut aller encore plus loin?
Ouais, écoute...
Il y a encore des trucs qui te font rêver?
Ouais, il y a plein... autour d'Augure, il y a déjà pas mal de choses que j'ai faites avec mes collaborateurs. Je dois toujours dire ça parce je travaille avec beaucoup de gens et j'adore ça, en fait. Donc, on a travaillé sur 4 disques de musique écrits du point de vue des personnages. Donc, 2 personnages masculins, 2 personnages féminins. Donc c'est pas moi Balogi, c'est plutôt moi Kofi, moi T'Challa, moi Mujila. Vraiment les points de vue des personnages, donc ce sont des albums à part entière de 10 chansons.
À part entière, mais qui sont quand même...
Qui sont connectés, oui, qui sont liés au film, oui. Qui sont vraiment écrits du point de vue des personnages. Vraiment presque comme une backstory, comme leur ressenti dans certaines situations qui sont traitées dans le film. Et donc ça, c'est un boulot hyper... C'était une belle aventure de réussir à mener à bien ce projet. Puis j'ai un projet d'exposition qui démarre en Belgique en octobre aussi et qui va s'étendre dans plusieurs territoires l'année prochaine. Voilà. Donc on fait beaucoup de choses, ouais.
On va pas souhaiter n'importe quoi, mais c'est quoi l'espoir vis-à-vis de Cannes?
J'ai déjà gagné, en fait. Tu vois, j'ai fait un film... Tu sais, moi, j'ai été refusé par tous les guichets de cinéma, tu vois. que ce soit le CNC, ils ont tous dit non, du côté flamand, le centre du cinéma. C'est pas un réal, c'est machin, c'est rien.
Il y a plein de gens qui sont pas réals, qui font. Enfin, quand on fait un premier film, on n'est jamais réalisateur là-bas.
Très peu. Ouais, mais c'est des gens du Sérail qui ont fait des écoles. Enfin, tu vois, il y a une espèce de logique. Ouais, du Sérail, quoi. Comme un politicien qui n'aurait pas fait Sciences Po. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute cette logique qui est inhérente au métier du cinéma, parce que le cinéma est un métier de. En fait, il y a un facteur économique hyper fort dans le cinéma. Et que ça, c'est vrai que j'avais pas pris en compte au départ. C'est que tu mets en place une petite société, en fait, pendant 3 mois, avec des salaires, avec des obligations, etc.
Ça fait vivre des gens, mais que
ça vive des gens, et que ça. Donc voilà, donc c'est cet aspect-là qui leur fait peur.
Pas réussir à gérer ça.
Bah, de se dire qu'un rappeur ne pourra pas comprendre ce que c'est, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Balogi.
Super. Voilà. Même si l'Occident a bon dos, le pH de nos minéraux, de nos lingots, et reproduire les schémas coloniaux. Car la terre en vue du ciel, c'est comme la terre vue du ciel, ça paraît loin de nous.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.